Bonsoir à toutes et à toutes. Vous êtes bien sur Bonjour Turbine, émission en direct du Media Lab, du WIP, en direct sur Station B et en différé sur Radio Pulse. Thème du jour, défendre une cause. Nous avons en plateau quatre invités. Je suis aujourd'hui accompagné par ordre alphabétique avec Alain, Oksane, Lafken, Marion et Théo. Bonjour à tous. Et alors ensemble, avec nos invités, nous allons défendre des causes. Alors défendre une cause, c'est le thème de notre émission. Et pour en causer ce soir, j'ai choisi de défendre la cause de notre émission. À chacun sa cause. Mais effectivement, il existe des causes plus nobles. La lutte contre la faim dans certains pays d'Afrique, d'Orient, l'OMS, la lutte pour la santé, contre les épidémies, l'abolition de la peine de mort, auxquelles ont contribué Victor Hugo, Camus, Badinter. Citons également des combats pour la liberté, l'esclavage, la traite des Noirs, l'apartheid, les causes autour de la liberté d'expression dans les pays non démocratiques, si on peut les appeler comme ça. On peut citer les droits des femmes, l'amélioration de leurs conditions de vie en règle générale. Il y a beaucoup à dire, mais nous y reviendrons avec nos invités qui nous expliqueront les principaux combats qu'elles mènent. Dans l'actualité, on constate que les Français sont dans la rue pour défendre leur retraite, mais pas seulement, puisque c'est un combat pour l'amélioration de la démocratie, participation du citoyen aux décisions de proximité. D'autres mènent des combats écologiques pour la protection de la planète, le climat et aussi pour le respect de la nature, pour parvenir peut-être à une agriculture plus saine pour l'homme. Toutes ces grandes causes sont des combats pour l'amélioration des conditions humaines. Pour réfléchir et trouver les mots justes autour de ce sujet, défendre une cause, nous serons accompagnés de nos quatre invités, Charline Prodhomme, Juliette Lamy d'Oser le féminisme, et de Nouria et Miguel du collectif d'aide aux migrants de Ouistreham qui seront là justement pour représenter ces deux associations locales. Nous évoquerons avec eux les causes qu'elles défendent, quelle est leur nature de leur engagement pour cette cause. Durant cette heure, nous nous interrogerons également sur les conséquences, les bénéfices éventuels et leurs inconvénients, et les sacrifices que cela entraîne, quelle cause pour quel effet. Petite cause, grande conséquence, comme dirait Benabar en parlant du vol du papillon. Défendre une cause, c'est s'engager pour certains, prendre position, être pour ou contre une idée. Pour d'autres, s'investir dans la société par des actions concrètes destinées à servir un idéal. Partager la cause par la prise de parole permet de la diffuser et pourquoi pas de fédérer autour d'elle. Alors sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Les grandes causes sont des combats pour l'amélioration des conditions humaines. Pour débuter avec nos invités, nous allons donner la parole à Alain.
Alors bonjour Nouria, bonjour Miguel.
Bonjour.
Merci d'être venu, bienvenue à vous. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous présenter le collectif que vous défendez, que vous représentez sur Ouistreham?
Alors tout d'abord, je voulais juste revenir sur un petit détail, parce qu'en fait, c'était un collectif au tout début, effectivement, où c'est des citoyens lambda qui, en passant à Ouistreham, ont vu des jeunes qui étaient là en errance, sans abri, sans avoir où se nourrir ou se doucher et qui se sentaient pas du tout en paix avec leur conscience de passer devant eux sans intervenir, sans rien faire, puisqu'effectivement rien n'a été fait par la mairie pour leur donner un abri où se poser. Et donc ça a été les citoyens de Ouistreham et autres d'ailleurs, pas que de Ouistreham, qui se sont mobilisés pour venir dans un premier temps distribuer des sandwichs et puis du café, du thé, échanger avec eux, savoir quel était, pourquoi est-ce qu'ils étaient là et savoir un peu plus de leur vie déjà. Et puis au fur et à mesure, ça s'est étoffé en différents pôles pour essayer de pallier au maximum à leurs besoins, tels que effectivement l'hébergement, puisqu'ils étaient tout le temps à la rue. Donc il y a eu un collectif hébergement. Enfin, dans le collectif, il y a eu un groupe hébergement qui s'est mis en place, un groupe qui permettait aux jeunes également d'aller faire des douches chez eux. Donc c'est des gens qui emmenaient ces jeunes dormir chez eux, les emmenaient également parfois prendre des douches, et puis des groupes qui se sont organisés par jour pour venir distribuer la nourriture.
Et oui, ça a pris vite un boom au départ en 2017, et puis ça s'est très vite structuré en différents pôles, comme disait justement Nouria, le pôle santé, hébergement, nourriture. Très très vite, on a créé des équipes où on faisait de la logistique avec, on avait un camion propre avec des tables, tous les ustensiles pour distribuer des repas. On faisait nous-mêmes. Chaque groupe faisait nous-mêmes chez eux de préparer à manger des espèces de tambouilles pour 15-20 personnes. Et puis, on arrivait sur la place et puis on distribuait plusieurs soirs par semaine. Très, très vite, ça s'est composé comme une espèce de toit d'araignée, en fait, avec des secteurs d'activité. Des secteurs, chacun était plus ou moins compétent pour telle ou telle discipline, comme héberger des jeunes ou la santé, avec des professionnels de santé, des infirmières, des médecins et notamment aussi avec une ambulance mobile qu'on a récupérée par l'intermédiaire d'une association à Itinérance Dieppe, qu'on a récupérée sur Dieppe justement.
Alors, j'ai cru comprendre, si je ne me trompe pas, que je vous avais accueilli jusqu'à plus de 250 migrants et qu'aujourd'hui vous en avez un peu moins, une trentaine, d'après ce qu'une de vos collègues m'a dit. Ils viennent d'où ?
Juste un petit rectificatif. Il y a eu, je crois, c'était en fin 2018, il y a eu environ la présence de 230, pas loin de 250, parce qu'il y a certains chiffres, on dit 350, fait, on va dans tous les sens, mais vraiment, c'est dans ce domaine-là. Mais on ne les a pas accueillis, personne ne les a accueillis au final. Ils arrivaient sur Ouistreham, ils étaient jusqu'à 230. Et petit à petit, voilà, on a, avec le fameux camo-dodo, plusieurs personnes venaient le soir en accueillir un maximum. Emmaüs était partenaire de ça aussi, on les remercie vraiment beaucoup, parce que tous les soirs, ils pouvaient accueillir une quinzaine. Mais il y a eu jusqu'à 230, 250 exilés sur le terrain, de provenance bien souvent du Soudan, pour la plupart d'entre eux.
D'accord. Donc c'est parce que moi, je passe souvent à Ouistreham, j'en ai croisé nombre et je m'imaginais qu'il y avait plusieurs pays. Non, c'est vraiment des gens qui viennent d'une région particulière.
Ouais, ils viennent essentiellement du Soudan. C'est vrai qu'au tout début, il me semble qu'il y avait d'autres communautés, mais comme à Calais, vous savez certainement qu'ils s'organisent vraiment par communauté. Et là, à Ouistreham, c'est essentiellement des Soudanais qui souhaitent passer en Angleterre, parce que voilà, il y a d'autres communautés sur Caen, mais là, c'est des Soudanais qui souhaitent passer en Angleterre.
Oui, donc c'est les demandeurs d'asile, ils viennent pas à Ouistreham, ils sont plutôt sur Caen que sur Ouistreham.
Voilà, parce que toutes les démarches qu'ils doivent faire, c'est se font sur Caen.
Alors, une question qui va peut-être vous paraître bizarre. Il y en a qui réussissent à passer ?
Absolument.
C'est tant mieux.
Enfin, qui ont réussi à passer.
Qui ont réussi à passer, oui. Est-ce que vous avez malheureusement des jeunes qui n'arrivent pas à passer et qui restent sur le continent, mais est-ce qu'il y en a qui, au péril de leur vie, la perdent ?
Complètement. On a eu le témoignage, là, c'était en novembre, je crois, de cette année, de 2022, où ils étaient 27 jeunes de nationalités différentes, jeunes et adultes, hein, dont des enfants, je crois qu'il y a un enfant de 6 ans, qui n'a pas été... En fait, il y a une enquête là-dessus, mais je ne sais pas si on saura un jour le fin d'histoire, mais entre l'Angleterre et la France, ils sont envoyés la balle pour qui allait aller sur place par rapport au message de détresse qu'ils ont envoyé, quoi. Ils sont tous noyés, quoi. Donc voilà, donc c'était, y a des témoignages très très forts, hein, de personnes dont, voilà, qui avaient déjà fait déjà été en Angleterre, étaient revenus. Il y avait des Afghans notamment, des Kurdes d'Irak, Kurdes d'Iran, je crois. Il y avait une Somalienne, voilà. Et un qui avait fait l'aller-retour et qui attendait sa fiancée, enfin des histoires de complètement dingues. Enfin, comment ça peut exister de nos jours, quoi. Enfin, je veux dire qu'on a laissé mourir les gens, quoi. Après, au niveau de Ouistreham, il y en a qui passent, enfin, ils prennent le risque en montant dans un camion, de chute, etc., de se blesser et puis de se faire embarquer, renvoyer chez eux, quoi.
Ouais, moi je sais, j'en ai vu courir derrière des camions, c'est assez rock'n'roll, sous l'œil impassible des gendarmes qui sont sur la place et qui sont à l'entrée du ferry, enfin juste sur le parking du ferry. Casqués, bottés, on a l'impression que ce sont
des grands criminels
quand on voit l'harnachement de ces gens-là. Alors là, on a parlé des migrants, on va parler un peu de vous. Quand vous agissez comme vous le faites, je suppose que ça ne plaît pas à tout le monde et que vous devez subir des pressions, quel genre de choses ça a pu avoir comme conséquence sur votre vie personnelle? Est-ce que vous avez eu des mailles à partir avec la justice, de la violence, des choses comme ça?
Personnellement, non. Mais dans notre groupe, en tout cas, au tout début, tout le monde était inquiet de tout ça. Puisqu'il y a eu quand même des choses qui se sont passées. On savait qu'il y avait des gens qui avaient été interpellés, ou il y a eu des gens qui ont eu des amendes, qui ont été accusés d'être passeurs. Et c'est vrai qu'au tout début, tout le monde était inquiet à savoir est-ce qu'on pouvait héberger, est-ce qu'on pouvait transporter. Et ne serait-ce que pour le transport, je sais que nous, on a eu des juristes qui étaient là à nous dire faites attention, si vous les transportez, vous êtes considérés comme passeurs. Si vous les hébergez, il ne faut absolument rien leur demander en échange, c'est-à-dire même pas si eux, ils voulaient donner des choses en échange. C'est moussien et voilà. Et ne serait-ce que dire est-ce que je peux débarrasser la table? Non, c'était faire attention, ne serait-ce que faire attention à tout ça également. Donc ça réfrénait un certain nombre de personnes pour faire ces démarches, à dire jusqu'où je peux aller, en quelle mesure j'ai le droit, j'ai pas le droit. Mais moi personnellement, j'ai pas été embêtée, à part en ayant des contraventions factices sur le parking de Ouistreham.
Toi, Miguel, tu me disais tout à l'heure que tu avais eu...
Oui, personnellement, mais de manière générale aussi, il y a une pression policière, une pression de l'État, notamment, comme on est au bord d'une frontière, quoi, quand on en avait dans notre voiture des exilés, on avait des pressions, quoi. Et moi, à titre personnel, c'est un mouvement, un parti fasciste, quoi, je vais même pas citer le site, mais sur un site internet, il y a ma photo, mon adresse, avec, si vous le retrouvez, le communiste rouge, je sais plus trop quoi, enfin des trucs du grand n'importe quoi, enfin c'était des menaces, et j'ai reçu une quinzaine de lettres anonymes, qui n'étaient pas des menaces, mais qui étaient comme un modèle avion avec des documents très factuels de la situation trouvée Israël. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais voilà, j'en ai reçu une quinzaine comme ça. Bon, voilà. Après, je ne m'en suis pas soucié, quoi, parce qu'on ne s'en sort plus, mais oui, j'étais menacé directement. Ouais.
Et vous avez ces menaces, ces choses-là, mais est-ce que vous avez. Quelle relation, quand même, vous avez avec les forces de l'ordre, les autorités locales? Est-ce que vous en avez d'ailleurs, ou pas?
Si, on en a eu, et il y a eu des... Il pouvait y avoir des relations très, très simples et très agréables, d'ailleurs, par moments.
Complètement.
Où ils allaient chercher les jeunes, même qui trouvaient dans des camions réfrigérés, qui nous les ramenaient pour éviter de les emmener au poste et qu'ils aient des obligations de quitter le territoire français. Qu'on puisse, nous, ensuite, les mettre à l'abri et les prendre en charge. Mais après, il y a eu également d'autres cas où c'était un peu moins...
Bah oui, il y a eu des cas, juste 30 secondes, il y a eu des cas de violence, vraiment, de gazage. Mais c'est les brigades mobiles, quoi.
D'accord.
Tous ceux qui sont à Paris, etc. Les gendarmes locaux, en fait, ils avaient une relation, finalement, comme ils voyaient toujours, finalement, ils voyaient que c'était des jeunes désœuvrés qui avaient besoin d'aide, quoi. Bon, après, voilà, il n'y avait pas de répression physique à leur encontre de la part des gendarmes locaux. Mais par contre, des brigades mobiles, oui, ça n'arrêtait pas.
Absolument.
Une dernière question rapide. Si on veut aider, est-ce que vous avez besoin de produits? Est-ce que vous avez besoin de bras? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où faut aller? Comment ça se passe?
C'est la dernière question?
Pour le moment, oui.
Ouais, d'accord. Ok. Il suffit de venir le lundi soir sur une place à Ouistreham, le long des bateaux pêcheurs. Il y a une équipe qui est présente le lundi soir. Le samedi matin, il y a une équipe aussi avec réparation de vélos, etc., qui est présente. Le jeudi soir, voilà, donc venir directement sur le terrain. Et sinon, on a une adresse mail qui s'appelle collectif@amogmail.com. Vous nous envoyez un message. On a un énorme problème de gestion dans la communication parce que c'est très très lourd, quoi. Donc, on ne va pas forcément dans les temps, mais il vaut mieux venir sur le terrain directement à la rencontre de tous ces super bénévoles qui sont présents sur le terrain, quoi.
Et juste rajouter également, remercier les donateurs qui, grâce à eux, on peut mener notre action jusqu'à maintenant, depuis 2017.
Est-ce qu'il y a une réponse à une question que je n'ai pas posée, que vous auriez envie de nous faire? Est-ce que vous avez quelque chose qui n'a pas été dit, qui vous paraît
important? Moi, juste de dire, c'est une cause qui n'en finira pas, de toute façon. On n'est pas prêt à s'arrêter. Il y a des déplacés économiques. Et si on n'a pas une politique d'accueil très, très concrète, qu'on n'utilise pas le pognon, l'utiliser pour la sécurité à des millions que pour l'accueil, on va se le reprendre en pleine figure dans les décennies qui arrivent, et ça, c'est certain, quoi. Et puis aussi, remercier aussi, oui, vraiment toutes les... la CIMAD, la STI, le Café 10e Âge qui nous a souvent accueillis, qui nous a souvent aidés pour notre cause, et puis des donateurs et tous ces citoyens qui n'ont pas été indifférents, et les futurs aussi qui ne seront pas. Voilà.
Bon, bah merci beaucoup. Je vous invite, chers auditeurs, à aider donc tant que vous pouvez. Vous allez sur Internet, vous trouverez des informations et vous trouverez des adresses et vous avez entendu ce qu'il faut, où aller, quand y aller. Merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale.
Merci. Oui,
merci.
Et pour accueillir nos prochaines invitées, j'ai choisi de vous faire écouter une chanson qui s'appelle Canción sin miedo, traduction chanson sans peur. Alors, ce n'est pas une simple chanteur, mais un hymne féministe contre les féminicides et les violences faites aux femmes. Cette chanson a été composée par la chanteuse mexicaine Vivir Quintana. Je vous propose d'écouter une version qu'elle a enregistrée avec le chœur El Palomar. Aussi, je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube et vous pourrez constater que ces femmes font bien plus que chanter, elles luttent.
Las calles que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa.
por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida,
que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza
el feminicida,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Voilà, Juliette et Charline nous ont rejoints, Juliette et Charline de Oser le féminisme. Alors on va débuter par les présentations. Qui êtes-vous ? Quelle association représentez-vous ? Même si je l'ai un petit peu dit dans l'intitulé. Pouvez-vous nous présenter votre association et puis les actions que vous menez ?
Ben, c'est moi qui vais prendre la parole. Donc, l'association Oser le féminisme est une association nationale avec plusieurs antennes. Il y en a entre 20 et 25 en France. Et donc, nous sommes Oser le féminisme de Caen, au Calvados, de façon plus large. Donc, c'est une association dont les buts sont la promotion de l'égalité femmes-hommes et la lutte pour supprimer toutes les formes de violence masculine contre les filles et les femmes. Donc, à Caen, on a des actions un petit peu spécifiques qui sont liées à notre territoire. La première, c'est qu'on a une exposition qu'on a réalisée sur le continuum des violences faites aux femmes, qui circule là où on nous le demande et là où on essaye de le mettre, en général dans les collèges et dans les lycées. Là, actuellement, elle est à la BU d'Alençon, grâce à Charline notamment. On va la mettre au mois de mai. Elle sera dans un collège de Thury-Harcourt, où on va en profiter pour faire des interventions et essayer de montrer aux futurs adultes le problème des violences faites aux femmes. Ça, c'est quand même assez intéressant. Sinon, on a un partenariat avec le Café des Images, où on fait des petits cafés débats. Et le prochain, ce sera le 12 avril. Mais là, je vais laisser Charline un peu plus en parler.
Bonjour. Du coup, oui, le prochain Café Ministre, ce sera mercredi 12 avril. Le sujet, c'est la place des femmes en sciences. Moi-même, je suis infirmière anesthésiste donc dans le milieu médical. On aura Marjorie qui est ingénieure en numérique. Donc on va parler un petit peu des femmes qui ont été oubliées, dont on ne parle pas, qui ont fait des grandes choses en science et qui sont complètement oubliées de l'histoire. Et puis de l'évolution, ça évolue mais pas très vite. Voilà. Alors, tout le monde est bienvenu.
Ok, l'invitation est lancée. Pourquoi avez-vous choisi cette cause plutôt qu'une autre ? Toutes les deux du coup.
C'est une bonne question. Il y a plein de causes. On ne peut pas être sur tous les fronts. Moi, c'est une cause qui m'atteint particulièrement parce que j'ai eu dans mon entourage et moi-même subi pas mal de choses. Il y a un moment où je me suis dit, il faut agir. Je ne peux plus être en colère et ne rien faire. Donc j'ai décidé d'intégrer Oser le féminisme il y a un an à peu près maintenant. Et en fait, être plusieurs en colère, on se soutient et ça fait du bien d'être avec des gens qui pensent comme nous.
En ce qui me concerne, je pense que ma colère, elle vient de très très loin. Parce que quand j'étais petite fille, je me rappelle déjà qu'à l'école, mon frère, il pouvait faire bricolage et poterie et moi, je devais faire couture. Je pense que ça a été une des premières choses qui m'a mise très très en colère. Ensuite, on m'a expliqué que le masculin, il l'emportait sur le féminin. Je ne comprenais pas exactement le pourquoi du comment et ça me mettait aussi un petit peu en colère, mais je n'arrivais pas vraiment à le mettre en forme, à le mettre en mots. Et puis ensuite, j'ai vu assez simplement qu'il y a une femme qui meurt tous les deux jours en France, voire tous les trois jours, selon les années. et qu'en fait rien n'est fait pour leur rendre hommage. On les oublie, on admet cette chose-là. Et ça, là, je me suis dit que c'était vraiment plus possible, qu'il fallait commencer à compter et à regarder tout ça. Et j'ai intégré l'équipe d'Oser le féminisme en 2016, donc c'était avant MeToo, quand on commençait à peine à faire les comptages des féminicides. Et alors aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un féminicide. En 2016, ce mot n'était jamais employé, on parlait d'homicide et d'une espèce de fatalité. Donc ensuite, là, ça reste la grande cause du quinquennat dernier et de celui-ci. Sauf qu'en effet, on reste assez en colère puisque 2023 est parti pour être une année record de féminicides, tellement on en a déjà depuis le début de l'année. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est à féminister un peu la société.
Alors justement...
Je te coupe juste 2 minutes. Je me rappelle, on avait fait une émission de Bonjour Turbine sur la place de la femme dans l'espace public. Et sur une ville comme Colombelle, qui est quand même assez moderne en termes de citoyenneté, on avait moins de 5% des rues et des places qui portaient le nom d'une femme. Donc c'est un signe qu'effectivement, il y a beaucoup de travail à faire.
Oui, c'est une action qu'on avait essayé de mener. On a regardé à Caen, on a mesuré. Donc à Caen, il y a à peu près 60-70% des noms des places et des rues qui ne sont ni d'hommes ni de femmes. Hein, la place de la République, la place Saint-Sauveur, on ne va pas dire que... On ne va pas aller jusqu'à dire que Sauveur est un homme, il ne faut pas exagérer. Mais en effet, dans ce qu'il reste, il y a 2% qui sont donnés à des femmes et quasiment 30% qui sont donnés à des noms d'hommes. Donc oui, il y a tout un effet de matrimoine à remettre au cœur de la ville.
Alors justement, en novembre 2017, le président Macron a annoncé... des mesures pour aller dans le sens de l'égalité homme-femme ou femme-homme et comme grande cause de son quinquennat. Alors ma question, est-ce qu'il y a eu des avancées et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer ?
Alors, en termes d'avancées, il y en a un petit peu. Je pense que c'est politique, mais c'est à la fois, c'est aussi médiatique. Je pense qu'il y a un grand rôle des médias aussi dans cette affaire-là, où on commence à s'indigner un petit peu plus facilement quand il y a un certain nombre de choses. Alors, ce qu'il y a eu comme avancée, il y a quand même eu le Grenelle des violences conjugales, une plus grande... je pense que les gens se rendent plus compte qu'il y a le 39-19, que ça ne sert pas à rien. En revanche, en effet, ça reste totalement insuffisant. En effet, il y a la loi sur le harcèlement de rue. Mais bon, ça reste compliqué à mettre en place. Ça reste compliqué à prouver. De toute façon, c'est toujours la charge de la preuve. En revanche, il y a des choses qui n'avancent pas, puisque aujourd'hui, il faut savoir que quand vous avez violé une femme, vous avez quand même 99,4% de chances de vous en sortir sans rien. Donc l'impunité reste là par la difficulté de faire la preuve. Et il y a toujours ce retournement victimaire où on met la honte sur la femme et que l'homme ne se sent pas coupable des violences qu'il commet. Après, je vais parler de violences masculines, puisque quand même dans 85% des cas dans les meurtres conjugaux, ce sont des hommes les agresseurs. Ces proportions sont même encore plus que 85% dans toutes les violences faites au sein des familles.
Du coup, votre exposition, vous en parliez tout à l'heure, qui s'intitule « Ceci n'est pas un fait divers », que j'ai eu la chance de voir au Sillon, a pour objectif, entre autres, d'alerter l'opinion publique sur la banalisation du traitement des féminicides. Et que reprochez-vous justement exactement aux médias dans ce traitement ?
Alors, c'est souvent que l'inversion victimaire est mise en avant. Je vais vous rappeler l'affaire de Madame Jonca, qui était documentaliste au lycée Fresnel à Caen, et qui a été tuée en 2019. C'était assez douloureux pour nous, parce que justement, on était en train de mettre en place l'exposition avec elle au lycée Fresnel, au moment où elle a été tuée par son mari. Le procès d'assises a eu lieu et c'était il y a 3 mois. Et il y a un article de journal qui commence par dire « C'est un vieux papy derrière son box qui est en pleurs et qui demande pardon à ses enfants. » Alors voilà, on va se retrouver à être en empathie. Enfin, le journalisme va nous proposer une empathie avec ce monsieur qui a quand même transformé ses enfants en fils de meurtrier et en orphelin de mère. Donc je pense que la moindre des choses, il peut pleurer, mais ce qu'il a fait est quand même absolument abominable. Et on aurait préféré avoir un autre angle journalistique qui précise quand même les faits dès le départ. Voilà, c'est il a commis un meurtre et puis c'était pas exprès. Hein, il avait il y avait 45 coups de couteau, me semble-t-il, dont 19 dans le visage. Donc c'est un peu facile d'aller là et puis et voilà, on a une espèce d'appel à l'empathie de la part du journaliste par rapport à cet homme-là et je trouve ça vraiment tout à fait insupportable.
Et rien que le terme crime passionnel, en fait, c'est on justifie par c'était la passion, il l'aimait, alors il l'a tué. C'est assez énervant.
Et alors, du coup, vous manifestez de temps à autre pour lutter contre les féminicides, les violences faites aux femmes. Comment sont perçues par l'opinion publique en général vos manifestations? Est-ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a une solidarité citoyenne, si on peut dire?
Disons que ces manifestations sont très centrées autour du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on pourrait aussi l'appeler de lutte contre les violences masculines, ce serait déjà pas mal. Alors en règle générale, on essaye de faire des espèces de monuments aux mortes, c'est-à-dire qu'on va nommer les femmes, on va faire un affichage. Le 25 novembre dernier, on avait fait des banderoles un peu en fanion qu'on avait mis devant Monoprix. Et c'était quand même assez impressionnant parce que il y en avait très très long. C'est plutôt bien accueilli, mais je me souviens que la première fois qu'on l'a fait en 2016, on avait fait aussi quelque chose sur la place Bouchard. On avait été relayé sur Facebook par la page où trouvait quoi à Caen. Et le premier commentaire qui avait été mis en dessous de cet hommage, c'est « Il y en a qui ne parlent pas assez des hommes battus ». J'avais trouvé ça assez indécent comme réflexion par rapport à faire part de 100 personnes qui étaient mortes et qui étaient des femmes. Et évidemment, on ne va jamais dire qu'on est pour que les femmes battent les hommes. Ce n'est pas du tout notre propos. Notre propos, c'est de dire qu'il y a vraiment un problème qui est lié au genre, puisque plus de 85% des agresseurs sont des hommes. Et en effet, ça ne va pas... on peut toujours parler des hommes battus, c'est toujours cette espèce de légitimité, on sait toujours mieux que nous, et ça c'est quelque chose qui est très lié aussi à l'inégalité de genre qu'il y a en France et partout ailleurs, c'est qu'on va toujours nous dire tu te trompes de combat et on sait mieux que toi ce qu'on doit faire. Voilà.
Le temps qui m'était imparti commence à s'amenuiser, si on peut dire. Donc, je vais faire comme Alain. Est-ce que vous auriez un petit mot de conclusion à glisser à nos éditeurs pour terminer?
C'est un combat qui mérite encore toute sa place aujourd'hui. On peut tous être acteurs dans ce combat au quotidien. Il n'y a pas forcément besoin de militer, juste... s'informer et déconstruire toute notre éducation, toute notre culture. Et on, voilà, tout le monde a sa place.
Eh bien, merci Charline et Juliette d'être passées dans Bonjour Turbine. Nous allons passer la main à Oxane qui va nous concocter une petite chronique dont elle a le secret.
Et merci David. Bah oui, pour cette émission consacrée à la défense d'une cause, on pourrait même dire des droits humains, il m'était difficile de ne pas vous parler de Janusz Korczak. Korczak, c'est un médecin pédiatre, pédagogue et écrivain juif polonais qui a vécu entre 1878 et 1942. Bien que méconnu sur la scène internationale, il est pourtant celui qui a inspiré la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée en 1989. Faut savoir que Korczak était en Pologne la personnalité scientifique la plus en vue et la plus respectée dans le domaine de l'enfance. Pour les Polonais, Korczak était tout à la fois l'équivalent de notre Victor Hugo, de Saint-Exupéry et de Françoise Dolto. Mais c'est pour son combat désespéré pour les droits des enfants et pour protéger les orphelins juifs des atrocités du ghetto de Varsovie qu'il est connu aujourd'hui. Alors, qui est Korczak? De son vrai nom Henryk Goldschmidt, Janusz Korczak est un personnage à l'enfance bouleversée. Il écrira lui-même « J'ai eu une vie difficile ». Juste le genre de vie que je voulais, difficile mais belle, riche et sublime. Issu d'une famille bourgeoise, il a grandi et vécu presque toute sa vie à Varsovie. Pour son instruction, il est confié à une école triste et sévère, entre guillemets, qui bat les enfants à la moindre occasion. Il découvre la pauvreté lorsque son père est interné en asile psychiatrique, où il décédera d'ailleurs 6 ans plus tard. Le jeune Korchak, alors âgé de 12 ans, se met à donner des cours aux enfants de familles bourgeoises afin de subvenir aux besoins de la sienne. Il se réfugie rapidement dans l'imaginaire et se lie d'amour avec l'écriture. Il écrit des poèmes et tient un journal personnel dont il tirera son roman « Confession d'un papillon » dans lequel il décrit sa vie d'enfant confronté à la maladie de son père. Sa vie d'adulte ne sera pas moins tumultueuse. Né en Pologne sous l'occupation russe, il a connu 3 guerres. À peine diplômé de médecine, il est mobilisé en 1905 comme médecin militaire dans l'armée russe, en guerre avec le Japon. Rebelote en 1914. De ses 4 années sur le front, il ramènera son ouvrage clé, son célèbre traité de pédagogie « Comment aimer un enfant ». Entre ses allers-retours sur les fronts de guerre, il travaille dans des hôpitaux pour enfants pauvres de Varsovie et ouvre en parallèle son propre cabinet où il conduit des consultations payantes pour les familles bourgeoises, gratuites pour les familles pauvres. Constatant que la dislocation des familles, la pauvreté et plus généralement les maux sociaux sont à l'origine de blessures les plus profondes, il y avait pour Korchak une absolue nécessité de transformer la société car elle lui était insupportable. Qu'à cela ne tienne, Korchak quitte l'hôpital et prend la direction de 2 orphelinats à Varsovie. Dom Siero, la maison des orphelins en 1912 qui accueille des enfants juifs, et Nage Dom, notre maison, en 1919 pour les enfants catholiques. Pour Korchak, l'enfant, c'est un interlocuteur valable. Il ne devient pas un homme, il en est déjà un. L'enfant a le droit à l'amour et à la santé, il a le droit de vivre dans le présent, d'être ce qu'il est. L'enfant a le droit de se tromper, de ne pas savoir, d'avoir des secrets. L'enfant a le droit de donner son opinion, de protester contre une injustice. Ni ange ni démon, c'est un citoyen à considérer avec sérieux, un acteur de son éducation qui devrait toujours être associé aux décisions qui le concernent. Korchak introduit donc la démocratie dans ses orphelinats et permet leur gestion par les enfants grâce à la mise en place de tout un tas de dispositifs. Pour la première fois, ces enfants ont le droit à l'expression et au débat, en 1912. Alors, c'est une véritable révolution éducative, pédagogique et politique. Ces républiques des enfants avaient un parlement, un journal, une fanfare et même un drapeau. Une constitution a été rédigée et un tribunal créé pour statuer sur les cas d'injustice en se référant au code du tribunal. Véritable code civil aux sanctions essentiellement symboliques, écrit avec une finesse d'analyse et un respect exceptionnel des sentiments et des potentialités des enfants, le corps de Korchak est un magnifique monument d'humanité. La justice était ainsi co-gérée avec les enfants et leur offrait toujours des possibilités de réparation. Pour l'anecdote, le tribunal s'adressait aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Korchak a lui-même été traduit plusieurs fois au tribunal pour avoir, par exemple, frotté les oreilles à un garçon, envoyé l'un au coin, exclu un autre du dortoir. Bon. Pour ce travail d'autogestion de l'orphelinat, les enfants étaient aussi rémunérés grâce à la vente de leur journal, imprimé et vendu à près de 150 000 exemplaires. Donc c'est beaucoup. La renommée de Korchak et de ses républiques des enfants était telle que ces orphelinats étaient devenus des lieux enviables, à tel point que des familles bourgeoises voulaient y placer leurs enfants. Mais en novembre 1940, sur ordre de l'occupant nazi, l'orphelinat Dom Siero a été déplacé et réinstallé à l'intérieur du ghetto de Varsovie. La sévérité de Korchak lui a cependant permis de ne jamais être inquiété par les nazis. Je m'explique. Alors que les personnes mouraient littéralement de faim à l'intérieur du ghetto, Korchak pouvait entrer et sortir librement, ce qui lui permettait de ramener avec lui de la nourriture qu'il redistribuait ensuite. En juillet 1942, sentant venir les derniers moments de ses enfants, Korchak leur a fait jouer la pièce de théâtre « Amal » ou « La lettre du roi » qui porte une grave et belle réflexion sur la mort d'un enfant. Le 5 août 1942, lorsque les nazis viennent chercher les enfants afin de les conduire au centre d'extermination de Treblinka, bien que protégé par sa réputation, Korchak refuse de les abandonner et décide d'accompagner ses collègues et les 192 enfants dans le train. Ce que j'admire chez Korchak, c'est la puissance de ses mots et sa capacité à composer avec le réel. Loin de l'utopie et de la poursuite d'un idéal, il porte une voix indéniablement pragmatique et non moins révolutionnaire. Ce que l'on ne peut pas empêcher, il faut l'organiser. C'est pourquoi, lorsqu'il embarque avec les enfants dans le train, pour Treblinka, ne pouvant se résoudre à leur mentir, les derniers mots connus qu'il aurait prononcés à ces enfants-là auraient été « Nous allons là où d'autres enfants se trouvent, mais ils y vivent mal car ils ne savent pas s'organiser. Alors nous allons leur apprendre, parce que nous on sait. » S'il y aurait encore 1000 choses à dire sur la vie singulière de Korchak, toute histoire a une fin et je me dois de conclure la mienne. On dit que les hommes passent et que les idées restent. En 1978, la Pologne, imprégnée par la puissance des idées de Korchak et s'appuyant sur son œuvre éducative, propose aux Nations Unies un projet de convention relative aux droits de l'enfant. Vous connaissez la suite.
Merci Oksane.
try. No hell below us, above us only sky.
Nous retrouvons notre ami Alain pour sa chronique Conteur Flâneur.
Alain Breton, photo flâneur, conteur. Une photo, une histoire, des histoires sur la Normandie ou les environs.
Que représente la photo dont tu vas nous parler aujourd'hui ?
C'est une photo que j'ai prise il y a peu au mémorial de Caen lors de la remise du prix du jury à la lauréate du concours de plaidoirie 2023 des avocats, sur laquelle on aperçoit la lauréate, le maire de Caen et le président du jury.
Alors de quoi s'agit-il ?
C'est un concours de plaidoirie pour les droits de l'homme qui a lieu le dimanche. Le vendredi se déroule le concours des lycéens et le samedi celui des élèves avocats. C'était la 34e édition. Je vous conseille ardemment de vous inscrire gratuitement lors de la prochaine édition qui aura lieu en mars 2024, dès que les inscriptions seront ouvertes sur le site du mémorial en début d'année de l'année 2024. Pour être sûr d'obtenir l'information, inscrivez-vous sur le site du mémorial pour recevoir les actualités du lieu. Durant cette journée, donc, quatre prix sont remis. Celui du jeune barreau, celui du barreau, celui du public et celui du jury. Cette année, c'est maître Mariam Mélan, avocate iranienne du barreau de Genève, qui a été récompensée pour sa plaidoirie « Femme, vie, assassiné ».
Alors, quel en était le sujet ?
Mariam Mélan nous a exposé l'histoire de plusieurs centaines de jeunes iraniennes et iraniens, 512, et en particulier de Mahsa Amini, jeune fille de 22 ans. Je cite « Mahsa est devenue la figure de proue de la contestation, de la résistance et de la liberté du peuple iranien. Arrêtée par la police de la moralité pour avoir exhibé une mèche rebelle, elle est décédée trois jours plus tard des coups portés à sa tête par les agents de la police. » C'était le 16 septembre 2022. Oui, mesdames et messieurs, c'est ainsi que l'on peut perdre la vie en Iran, au nom d'une loi sacrée, au nom d'une loi intouchable, au nom d'une loi scélérate. C'est le prix, disent-ils, de ce crime impardonnable consistant à refuser de cacher la beauté sous le tissu, ce foulard imposé, ce cache-misère moral qui déguise la répression aveugle en un louable respect des bonnes mœurs. Je vous invite à retrouver l'intégralité de cette plaidoirie dont je vous ai livré un extrait sur le site du mémorial. En outre, ces plaidoiries nous informent d'atteintes aux droits de l'homme dont nous n'avons pas conscience ou dont nous ne sommes pas au courant. J'ai ainsi appris le sort réservé aux ouvriers haïtiens dans les plantations de canne à sucre de République dominicaine, l'État voisin de l'île, qui à l'heure de la retraite sont jetés, expulsés sans retraite du pays. En entendant cela, j'ai eu un peu honte d'être allé enrichir ce pays scélérat lors de vacances de rêve sur des plages paradisiaques. Être informé, c'est aussi avoir la possibilité d'agir pour une cause à notre petite échelle, par le boycott par exemple, dans ce cas. Et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, les petits gestes peuvent peut-être faire bouger les choses.
Et je crois que tu voulais aussi nous parler d'un monsieur présent sur la photo.
En effet, rassurez-vous, il ne s'agit pas de Joël Bruno, mais de Patrick Chauvel, président du jury 2023. C'est un grand reporter, correspondant de guerre, photographe, réalisateur de documentaires et écrivain français, né le 7 avril 1949 à Paris. Je dis 7 avril 1949 pour montrer quel âge il a, donc plus de 70 ans, où il vit et travaille. Il a couvert 34 guerres et a été blessé 7 fois. C'est ce qu'on appelle une pointure, une légende. On peut d'ailleurs découvrir ses photos au mémorial de Caen, gratuitement au-dessus de la boutique, où il a déposé le fonds permanent de ses œuvres. Quelques clichés récents pris en Ukraine y sont à découvrir, magnifiques et bouleversants. Il nous a expliqué que non seulement son travail dangereux est de nous informer, mais aussi et surtout de compiler des preuves qui pourront être utilisées par les tribunaux internationaux qui seront créés après la fin des conflits, ainsi de défendre la cause des victimes. Pour ma fin, voilà. C'est très frustrant d'entendre impuissant, mais le moment viendra d'attendre impuissant, mais le moment viendra où les bourreaux seront condamnés, rappelons-nous de l'ex-Yougoslavie, et où la cause des victimes sera entendue et défendue. Voilà. Et maintenant, nous allons avoir l'Afghan qui va nous faire sa rubrique.
Mesdames, messieurs, je me tiens devant vous comme un homme prêt à défendre ce qui lui est cher. De par ce vaste monde, l'humanité est en proie à un conflit qui scinde notre population en deux camps. Et je me dois de défendre ce qui, à mes yeux, est une cause noble et mérite toute notre attention. Bien que cette division a suscité de nombreux débats, que des guerres se sont faites entre amis, famille et voisinage, il est temps de calmer les ardeurs de chacun et de créer un climat de paix et d'entente fraternelle. Le lait se met après les céréales, sinon c'est tout sec.
Dali était-il fou ou sans esprit? Picasso voyait-il le monde en cube?
Ok.
La poule vient de l'œuf, mais l'œuf vient de la poule. La folie, c'est de répéter la même action encore et encore en pensant que ça va changer le résultat.
Encore, encore.
Comment l'homme s'est dit qu'il pouvait boire ce qui sortait de la vache? Qui est le premier à s'être demandé si c'était normal d'avoir des voix dans sa tête? Si j'achète du pain avec un tableau, ce serait une croûte? C'est ça, la folie.
De vifs débats ont éclos durant ce jingle, et force est de constater que certains ont du goût et d'autres non. Mais j'aimerais vous poser la question, comment qu'y faisaient les Vikings, hein ? Eh bien, le 19 avril à 14h30, on organise une visite de l'exposition Vikings et Normands au musée de Normandie. Et soyez sûr que cette question restera sans réponse. Mais on verra plein de choses plus intéressantes. Le 21 avril, toujours à 14h30, on partira dans le pays du soleil levant pour en apprendre plus sur le Japon médiéval. Au programme, l'air et de haut, des histoires de clans et de la sauce samouraï, je crois. Le 22 avril, à 10h, on fait la première session d'initiation à la retouche photo, de quoi créer des hérésies comme des hommes à tête de chien. Le 26 avril, à 14h30, on retourne au château de Caen pour parler du passé et de l'avenir de ce joyau qui fait rayonner notre ville à travers le monde. Enfin, le 27 avril à 14h30, on vous propose une animation autour de la thématique de la tapisserie de Bayeux, où vous pourrez broder à l'aide de notre brodeuse numérique des petits chevaliers et autres châteaux pour réaliser une œuvre commune. Joie ! Mais revenons-en à notre thématique du jour et du jeu qu'on appellera « Qui c'est qui dit ça ?» Je vais effectivement vous lire une petite phrase, donc là les micros sont ouverts pour tout le monde. Une petite phrase qui vient d'un discours qui sont célèbres. On commence par la première. « Toi qui souffres, qui que tu sois, Entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime.
Malraux ?
Ce n'était pas Malraux. Alors, est-ce que ce discours vous dit quelque chose ? Il est mort. Il est mort, mais il a créé quelque chose de très important. On a tout à l'heure...
Ah, l'abbé entendu... Pierre.
Effectivement, c'est l'abbé Pierre. Alors, volontairement, j'ai pris des petits passages qui ne sont pas forcément les plus célèbres. Si je vous avais dit « I have a dream », c'est un peu trop facile.
C'est l'abbé Pierre aussi.
C'est l'abbé Pierre aussi. L'heure est venue d'émerger de la vallée obscure de la ségrégation pour avancer vers la lumière de la justice raciale. L'heure est venue de sortir des sables mouvants de l'injustice raciale pour prendre pied sur le roc solide de la fraternité.
Mandela.
Ce n'est pas Mandela.
Luther King.
Martin Luther King. Et en plus, je vous ai donné un petit peu la réponse. C'était le discours « I have a dream » juste avant. Alors, attendre après 200 ans, attendre comme si la peine de mort ou la guillotine était un fruit qu'on devrait laisser mûrir avant de le cueillir.
Badinter ?
Effectivement, ça vient de Badinter lorsqu'il luttait contre la peine de mort. Une telle société n'autorisera plus jamais que certains soient faits prisonniers à cause de leurs idées. Qu'il ne soit jamais dit par les générations futures que l'indifférence, le cynisme et l'égoïsme nous en ont empêchés d'être à la hauteur des idéaux humanistes.
Bah, du coup, c'est pas Hugo alors ?
C'est pas Hugo ?
Non.
Alors, je vous dirais, c'est pas Luther King.
Donc, ah, c'est Mandela ?
C'est Mandela. Alors, je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement, il suffit d'écouter les femmes.
Simone Veil.
Simone Veil, bien entendu. Alors, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Je me considère comme un soldat, toutefois un soldat de la paix. Je connais la valeur de la discipline et de la vérité.
C'est Gandhi ?
Effectivement, c'est Gandhi. Il y en a une qui est calée dans les discours célèbres. Et alors, celui-ci est très intéressant. Je suis navré d'être obligé de combattre, car à l'époque où nous vivons, de telles situations ne devraient pas exister. Je lutte de toutes mes forces pour faire abolir les lois existantes dans différents pays qui soutiennent la discrimination raciale et religieuse parce que ces lois font croire à ces citoyens qu'ils ont raison d'élever leurs enfants dans cet esprit. Quelle importance y a-t-il à ce que je sois noire, blanche, jaune ou rouge ? C'est une femme qui a dit ça. Ah, plus dur. Et il s'agissait de Freda Joséphine MacDonald, qui est aussi connue sous le nom de Joséphine Baker, qui du coup, lors de son arrivée en France, a fait tout un discours autour de l'antisémitisme. Bon, j'aurais plein d'autres choses, mais je pense que je vais rendre l'antenne à David.
Oui, ben merci. On a peut-être... Je ne sais pas si on va avoir le temps. On va plutôt passer une petite, un petit morceau et on reviendra pour la conclusion.
Alors, ce petit morceau, c'est la musique, la BO du film La Déchirure, qui se passe au Cambodge lors de l'arrivée des Khmers Rouges au pouvoir. Et donc, c'est Michael Field qui a composé cette musique.
Thank you.
De retour dans Bonjour Turbine, notre émission touche à sa fin. Défendre une cause, donc militer pour une bonne cause, prouve à chacun que nous existons et que nous voulons faire entendre notre voix dans ce tintamarre général. Alors merci à nos invités de nous avoir fait partager la leur. Merci à toute l'équipe, c'est-à-dire Alain qui était avec moi à la co-animation, Lafken, Marion à la technique, Oxane, Théo, et donc merci à vous les invités d'être venus ici au WIP. Lors de la prochaine émission, nous continuerons un petit peu sur des thèmes un peu similaires puisque nous évoquerons le harcèlement scolaire. Rendez-vous donc pour une nouvelle aventure radiophonique. Merci à toutes et à tous.
Il nous reste quand même un petit peu de temps. Est-ce que vous auriez un mot que vous voudriez dire pour finir ?
Oui, on est en train d'organiser, c'est la première fois qu'on fait ça, on essaye d'organiser un festival pour le 30 septembre autour des femmes et des migrations. Donc on est un petit peu en appréhension, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de travail. Voilà.
Vous avez besoin d'aide ? C'est le moment de le dire.
Bah pour l'instant, pas trop, mais oui, rejoignez-nous. En fait, on fait quand même pas mal d'actions. Et rejoignez-nous sur la page Facebook ou sur Instagram. Prenez contact avec nous, on trouvera toujours des moyens de nous aider. Il n'y a pas de souci.
Bah ça sera avec plaisir.